sei Natale, dicembre vi ha scelto a primora vesperale di amore dispensata con funesto temporale.
Merci. Bonsoir chers auditeurs et merci d'être à l'écoute de ce Libre Journal où avec mon ami Hilaire de Crémier, nous avons la joie de recevoir Gilles Varange qui fut l'un des fondateurs et premier rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Universelle et qui est collaborateur de Politique Magazine et qui a une carrière journalistique dans le domaine international.
À la Voix du Nord. Grand reporter.
Et donc nous allons parler, si vous le voulez bien, nous allons vous interroger sur l'actualité internationale qui occupe nos écrans, qui occupe nos radios, mais souvent, je dois dire, on n'y comprend pas grand-chose. Alors, ma première question est d'abord sur le conflit entre l'Amérique et l'Iran, sur cette guerre d'Iran. Si alors dont on nous dit que elle se termine, les Iraniens disent qu'elle se termine pas du tout. Et alors je voudrais d'abord avoir votre analyse, votre sentiment. Alors moi je vous dis très simplement, dans un premier temps, j'ai pensé que Trump faisait une erreur parce que d'attaquer comme ça ce régime, ça risquait de le renforcer, alors que je pensais qu'il croulerait lui-même. Mais en fait, après, en regardant les choses, je me disais, il a peut-être eu raison de prendre les devants. Et puis maintenant, je suis dans l'immense point d'interrogation.
Oui. Écoutez, moi, avant toute chose, je dois avouer que je considère cette affaire sur un plan essentiellement sentimental, parce que j'ai vécu vraiment les derniers mois de vie du chat. Précisément, le journal m'avait envoyé là-bas sur place quand la situation a commencé à se dégrader, et j'ai vécu les trois derniers mois précédant la suite du chat, puis l'arrivée de Khomeini, et puis tout de suite après le coup d'État. Pour moi, ça a toujours été un choc énorme, parce que je dois avouer, j'avais une admiration réelle, moi, pour Reza Shah Pahlavi, parce qu'il a accompli vraiment une œuvre de modernisation qui était tout à fait extraordinaire. Alors moi aussi, bien sûr, je suis anti-interventionniste, surtout si c'est pour changer des régimes au nom des droits de l'homme. Et effectivement, tout à l'heure peut-être j'évoquerai un peu le document qui est sorti sur oui. la sécurité nationale, oui, précisément oui. En décembre, et qui semblait écarter toute guerre de ce genre. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi peut-être Trump a accompli une démarche que nul n'attendait. Moi aussi j'ai pensé vraisemblablement comme vous en janvier que quand il a commencé à parler d'intervention, j'ai pensé sincèrement qu'il bluffait. Et après, à ma grande joie, je dois avouer, il y est allé. Et j'avoue que c'est certes peut-être contraire à tous mes principes, mais que en cette affaire, le sentiment l'emporte. Et d'une part aussi, parce que la chute de ce régime serait un événement
considérable,
mais considérable, dont on ne mesure absolument pas la portée. Ce serait quelque chose, j'ose le dire, d'aussi important que la chute de l'Union soviétique en 1990. Imaginez un peu, alors je ne vais pas me livrer à de l'Uchronie, mais imaginez que le chat ne soit pas tombé, que ce régime n'ait pas été renversé. On n'imagine pas, alors je ne vais pas dire je vais pas essayer d'imaginer ce qui serait arrivé si le chat était resté au pouvoir. Mais raisonnablement, on peut au moins constater les conséquences incroyables qui n'ont cessé de rouler après la chute du chat. Hein. après la chute du Shah, d'abord, il faut bien se rappeler de l'importance, de la puissance de l'Iran sous le Shah d'Iran. C'était un homme qui, d'une certaine façon, était son régime était la clé de toute la stabilité, à la fois dans toute une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, du Proche-Orient, et également de l'Asie mineure, de l'Asie centrale, parce que son poids s'étendait jusque-là. Même les Soviétiques n'avaient évidemment pas peur du Shah d'Iran, mais en tout cas, et ne souhaitaient pas le brusquer, en sachant que jusqu'au dernier mois de son régime, il avait l'appui des Américains. Mais donc j'en reviens à mon idée première, examinons un peu tout ce qui s'est passé du fait de la chute du Shah. Premièrement, une guerre de 8 ans avec l'Irak,
effroyable,
qui a fait 2 millions, on oublie, 2 millions de morts, des destructions effroyables. Or il est certain que jamais, jamais il ne serait venu à l'idée de Saddam Hussein d'essayer d'envahir l'Iran si le Shah d'Iran à l'époque avait été encore au pouvoir. Simplement, Hussein a considéré qu'il avait que le régime était très affaibli et que il avait de grandes chances d'envahir toute la région d'Abadan, région où il y a beaucoup de pétrole et qui en même temps est peuplée par une population, on l'oublie souvent, une population arabe. Et donc il est entré, et d'une certaine façon, alors ça c'est une incidente, il a sauvé le régime Khomeini, parce qu'à l'époque, les militaires étaient en train de préparer un coup d'État.
Bon, et contre Khomeini.
Contre Khomeini. Et tout naturellement, ces officiers étant patriotes, ils se sont retournés et à la faveur de cette guerre de 8 ans, on a vu naître une armée parallèle plus puissante que l'armée, qui était les gardiens, armée idéologique, qui était l'armée des gardiens de la révolution. Et à l'issue de cette guerre, le régime de Khomeini était devenu indéracinable. Alors ça, c'est une première. Bon, Saddam Hussein, on l'oublie souvent, dans cette tentative d'invasion, était poussé par les Américains à l'époque. Parce que les Américains, ils voyaient une occasion de faire tomber le régime de Khomeini. Hein, ils avaient une revanche à prendre, parce qu'on n'imagine pas aux États-Unis, dans la classe politique comme dans l'opinion publique, combien la prise des otages avait été un phénomène absolument épouvantable. Bon. On continue dans les conséquences. Saddam Hussein ayant été vaincu, il estime quand même que les Américains lui doivent une rétribution. Son pays, son industrie est en partie détruite. Il a perdu 500 000 hommes, quasiment. Bon, et tout naturellement, à titre de compensation, il envahit le Koweït. Mais sans l'avis des Américains. Il pense d'une certaine façon que les Américains vont se faire à cette idée du Koweït. C'est pas du tout ce qui se produit. Hein, et en fait, on va avoir la première guerre du Golfe. Hein, c'est-à-dire que 9 ans après, c'est une des conséquences de la chute du Shah.
C'est ça. Hein,
donc on a une première guerre du Golfe. Et bien sûr, s'il n'y avait pas eu cette première guerre du Golfe et toutes ses conséquences, on n'aurait pas eu de deuxième guerre du Golfe, celle qu'a fait le fils Bush. Voilà, ça c'est une première.
Et on n'aurait pas eu la disparition de Saddam.
Voilà, tout à fait. Alors ça, ce sont les conséquences pour ce qui concerne le Moyen-Orient. Voyons maintenant les conséquences pour l'Asie mineure. Il faut se souvenir que en Afghanistan, le roi Zahir Shah avait été renversé en 1973 et un membre de sa famille qui s'appelait, autant que je me souvienne, Daoud Khan, avait pris le pouvoir avec le soutien de l'armée. Zahir Shah voulait absolument moderniser son pays. C'est un peu comme ce qui était arrivé avec Sadat. Hein, ça, si Sadat s'est tourné vers les Soviétiques, c'est parce que les Soviétiques étaient prêts à lui payer son barrage, alors que les Américains avaient refusé. Zahir Shah était à la tête d'un pays très pauvre. À la tête d'un pays très pauvre, et les Soviétiques ont commencé à l'inonder de crédits. Ils en ont profité pour noyauter l'armée. Et en 1973, l'armée a renversé Zahir Shad. Puis, en 1978, elle a renversé son successeur, qui était le prince Daoud. Hein. Mais jusqu'alors, l'influence soviétique était absolument patente, mais jamais il n'était intervenu directement. En 1978, ce sont les communistes qui arrivent au pouvoir. Ils prennent un coup d'État, ils prennent le pouvoir. Mais il y a une tendance radicale et une tendance plus modérée, si tant est que des communistes puissent être modérés. Hein. Bon. Et ce qui se produit, c'est qu'il y a une immense... cette arrivée des pouvoirs aux communistes et surtout la victoire de la faction radicale amène un énorme soulèvement dans le pays, de nature, naturellement, dans un pays comme celui-là, de nature islamiste.
Islamiste.
Bon, voilà. Il est évident que... Et donc, les soviétiques se trouvent face à un problème qu'ils n'avaient pas prévu. C'est que le régime communiste dont ils ont puissamment aidé à l'instauration est menacé. Il est évident que si le Shah d'Iran avait été au pouvoir, il ne serait pas intervenu. Mais en février 79, le Shah est renversé. C'est Khomeini qui arrive au pouvoir. En décembre, 10 divisions soviétiques entrent en Afghanistan. Jamais, on peut penser que jamais, non pas parce qu'ils avaient peur du Shah, mais parce qu'ils savaient que le Shah vraisemblablement serait intervenu avec l'appui des Américains. Donc avant même toute... je pense qu'il n'y aurait jamais eu d'invasion soviétique. Mais je poursuis dans les conséquences.
Oui.
Bon, les Soviétiques ayant envahi l'Afghanistan, les Américains se mettent à armer l'opposition islamiste. Surtout après l'arrivée de Reagan au pouvoir. Hein. Et donc, on a une opposition islamiste qui progressivement va combattre les Soviétiques. On oublie que c'est une guerre terrible. Hein. 1 million de morts dans la population civile, une soixantaine de milliers de morts du côté soviétique, du côté des talibans, enfin des diverses factions islamistes, on ne sait pas très bien. 1500 chars détruits, plusieurs centaines d'avions. En février 1989, la Russie évacue, Gorbatchev décide d'évacuer. C'est un événement terrible, considérable. Hein. D'abord les Russes sont ruinés. Avec cette intervention, ils n'ont pas les reins financièrement aussi solides, loin de là, que les Américains, qui peuvent se permettre de faire une guerre au Vietnam, enfin des guerres un peu partout, et puis de partir la queue entre les jambes. Mais pour les Soviétiques, ça a été une importance. Et surtout, c'est la première fois que les Soviétiques subissaient une défaite face à une insurrection, face à une rébellion, une insurrection nationale. Ça a eu un poids psychologique énorme dans toute l'Union soviétique. Hein, et d'abord partout, pas seulement en Asie, mais dans les républiques baltes, qu'on oublie toujours, hein, qui sont les premières à s'être révoltées. Hein, et ça a entraîné par tout un tas de machins, par tout un tas de conséquences. Oui, oui. Hein, cela a entraîné la chute de l'Union. Vous voyez où on en est depuis la chute du Shah. On aboutit à la chute de l'Union soviétique. Mais pas seulement. C'est qu'après, ça donne à la poussée islamiste qui avait commencé avec le décuplement des prix du pétrole en 1974, hein, qui avait permis à l'Arabie Saoudite, à d'autres pays, de financer tout un tas d'organisations dans l'ensemble de l'Occident. Mais cette fois-ci, ça donne une seconde poussée islamiste. Ces islamistes qui viennent d'emporter l'Union soviétique, ils se sentent tout aussi puissants face aux Américains. Et on va avoir, en tout cas, la chute des tours,
oui.
Hein, et tout ce qu'on peut imaginer par la suite. Donc vous voyez l'incroyable succession de conséquences et à quel point cet événement, la chute du Shah, a eu des répercussions tout aussi considérables. Mmh. Hein, et donc, je pense que maintenant le renversement du régime instauré par Khomeini aurait, alors là je ne vais pas faire encore une fois de l'Uchronie bon, ou essayer de prévoir ce qui peut se passer, hein. je me méfie beaucoup de ce genre d'exercice, mais en tout cas, sur le plan militaire, je ne souhaite pas en parler parce que ça c'est tout à fait hors de mon domaine de compétences. Hein. Je reste pantois devant ces exercices de généraux, de colonels, qui tous les soirs nous expliquent comment ça va se passer, etc. Hein. Oui. C'est ces comités d'experts hein, que ma ville appelait les comités du doigt dans l'œil. Hein.
C'est ça.
Bon, non, donc je vais sûrement pas m'amuser à ça. Mais vraiment, si le régime tombe, et je pense que de toute façon, il a pris de tels coups qu'il tombera. Le problème, c'est de savoir quand. Mais c'est un régime qui, tel qu'il est touché, alors on nous explique que ça va ramener la ligne dure et tout ça. Pour l'instant, tous les gardiens de la Révolution, ils sont terrés comme des rats dans les caves. Hein. Ils attendent que ça se passe. C'est tout. Simplement, comme c'est un régime totalement voyou, bon, il envoie des fusées, ce qui lui reste de machin. Hein, bon, hein, hein,
et ils ont beaucoup d'argent, quand même.
Alors, ils ont encore beaucoup d'argent et ils ont quand même une aide importante de la Russie. Et une aide importante
de la Chine.
Oui. Hein, alors, qui ne bouge pas, qui bon, militairement ne bouge pas, parce que par exemple, pour aider le régime iranien, on aurait pu penser que la Chine allait déployer toute une partie de sa flotte au large de Taïwan, ne serait-ce que pour empêcher Trump d'amener ses porte-avions, n'est-ce pas, jusqu'au détroit, jusqu'à proximité du détroit d'Hormuz. Ils ne l'ont pas fait. La Russie se contente de condamnations verbales. Mais dans le même temps, elle inonde l'Iran de drones. Hein. Initialement, au moment de la guerre, au début de la guerre en Ukraine, ce sont les Iraniens qui ont fourni à Trump des masses considérables de drones, hein, notamment leur fameux drone Shahed. C'est quelque chose d'assez...
À Poutine, vous voulez dire.
Qui ont fourni à Poutine. J'ai fait un lapsus. Ils ont fourni énormément de drones. Il faut savoir qu'un drone Shahed, ça peut détruire un char. Hein, et ça coûte 6 000 euros.
Oui, c'est beaucoup moins cher.
C'est beaucoup moins cher.
Qu'un missile.
Hein. Oui. Or... On dit, alors je n'ai pas d'informations particulières, mais de plusieurs sources me disent que actuellement, les Russes fournissent 1000 drones Shahed par jour. Ce qui permet de...
À l'Iran.
Et qu'ils produisent eux-mêmes maintenant. Parce qu'ils ont acheté les licences à l'Iran et ils produisent. Et ils produisent avec la guerre, évidemment. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, paradoxalement, on ne voit pas la Russie profiter de ces événements pour déclencher des offensives extrêmement puissantes en Ukraine, c'est que tous leurs drones, qui sont maintenant un élément considérable de la stratégie militaire, tous les drones partent vers l'Iran. Voilà, alors c'est un élément... Bon, je pense que, par exemple, les drones sont incapables d'atteindre
Et quel est le calcul de Poutine là-dedans?
Bah, je pense simplement qu'il est un peu coincé, c'est qu'il est obligé de montrer à ses divers alliés à travers le monde que bon, il ne laisse pas les Américains, mais c'est le minimum vital hein, dans cette affaire. Hein. On ne peut pas dire qu'il apporte un appui absolument décisif. Il pourrait apporter, par exemple, offrir ou donner à l'Iran ou vendre à l'Iran un certain nombre de ses missiles. Bon, ce qu'il ne fait visiblement pas. Hein. Et ben, il est évident qu'il est quasiment obligé de soutenir l'Iran parce que vis-à-vis de tous ses alliés, ses proxys, il ne veut pas perdre la face, il ne peut pas perdre la face. Mais par ailleurs, il est évident qu'il ne cherche pas l'affrontement avec Trump. Trump le ménage d'ailleurs dans le même temps beaucoup. Mmh. Si on parle tout à l'heure du document de la sécurité, on verrait bien que il y a visiblement de la part de Trump le souci de parvenir à échéance, mais en tout cas de parvenir à un renversement d'alliance, c'est-à-dire d'arriver à faire exactement le contraire de ce qu'a fait Kissinger à une certaine époque, hein, qui s'était allié avec le régime épouvantable de Mao, Nixon, en tout cas avec Kissinger, qui avait décidé de faire un renversement pas renversement d'alliance, mais c'était pour les Chinois le renversement d'alliance, mais en tout cas de s'allier avec Mao, de se rapprocher de Mao pour contre l'Union soviétique. Aujourd'hui, le but de Trump, c'est pour ça que je pardon pour ce lapsus, aujourd'hui le but de Trump a encore une fois à échéance, on ne sait pas très bien, mais en tout cas quand la guerre d'Ukraine sera réglée d'une façon ou d'une autre, c'est de parvenir à un rapprochement avec la Russie et cette fois-ci à un renversement d'alliance, cette fois-ci contre la Chine, qui est évidemment l'ennemi stratégique de des États-Unis, ce qui n'est pas le cas de ce qui n'est pas le cas de la Russie.
Oui,
voilà la voie pour parler un peu de l'Iran. Donc je me garderais bien d'essayer de deviner ou de supputer sur l'avenir des événements, je ne sais pas.
Ce qu'il y a, c'est que Israël contrairement... Israël a sa politique à lui. Israël a sa
Alors,
politique.
Alors, la politique d'Israël, eux, c'est bien évidemment le renversement du régime. Ça,
Et puis, l'extension.
C'est clair et net. Ah ben, certaine façon,
pour Netanyahou,
pour Israël, c'est quelque chose d'absolument l'attaque du Hamas en octobre a été une chance absolument extraordinaire. Ça a permis de détruire le Hamas, ça a permis d'abaisser considérablement le Hezbollah. L'une des conséquences a été la destruction du régime syrien. Aujourd'hui et maintenant, l'affaiblissement absolument considérable de l'Iran. Donc cette affaire a été... Alors on dit que le Hamas a déclenché cette affaire sans l'aval de l'Iran. Moi, je n'arrive pas à le croire parce qu'il fallait des moyens militaires, des moyens financiers considérables pour déclencher cette affaire. Mais il est évident que pour Israël, c'est une occasion absolument...
Maintenant, ils mettent la frontière sur le Litani.
Voilà, malheureusement.
Ils sont en train de prendre tout.
Il est évident qu'ils sont en train de s'emparer du sud du Liban. Hein, la France aurait pu jouer
un vrai rôle
dans ce déjà sous Mitterrand. Hein, c'est l'une des rares fois où Mitterrand s'est plaint de moi auprès de Moscou. C'est un homme qui intervenait peu, contrairement à ce qu'on a pu dire. Hein, en pleine guerre civile et quand la Syrie a commencé à venir, j'avais fait un édito qui s'appelait « Des ronds dans l'eau ». Parce que souvenez-vous, il avait envoyé la flotte au large.
Bon,
il ne s'est rien passé du tout. Mitterrand a une responsabilité. Tous les dirigeants ont beaucoup parlé, hein, y compris Chirac. Y compris Chirac, et n'ont jamais rien fait. Alors que s'il y a un endroit où la France avait les capacités d'intervenir, il fallait du cran, hein, il ne fallait pas avoir peur. C'était affronter, il fallait être habile surtout, hein, il fallait affronter certaines grandes puissances. Mais il est certain que là, nous avons complètement failli à notre mission. Complètement. Hein. Et il est évident que Israël trouve un moyen formidable de s'étendre. Hein. C'est une chance pour Israël, c'est une chance historique pour Netanyahou aussi. Hein. Faut bien tenir compte que moi j'ai connu Israël la première fois où je suis allé. C'est le premier reportage que j'ai fait pour mon journal juste après la guerre des six jours. Mon journal m'a envoyé en Israël. Hein. Hein, j'y suis allé à plusieurs autres reprises, bien souvent ensuite. Hein, et c'était encore l'Israël des kibboutzim, la grande époque, l'Israël du semi-collectivisme. Mmh. C'était déjà en 68, ça commençait à se disperser. Hein, mais ça n'était pas du tout la même idéologie qu'aujourd'hui. Et ça n'était d'ailleurs même pas la même population. Le phénomène qui se produit en Israël, c'est l'orientalisation d'Israël. Mmh. c'est que progressivement, les populations séfarades sont en train de se substituer en nombre à la population ashkénaze. Hein. Et c'est une population qui a des revanches à prendre, la population de séfarade. Il ne faut pas oublier que jusqu'à la chute du premier ministre Nouri Saïd en Irak, un tiers de la population de Bagdad était juive. Il y avait un quartier important juif au Caire. Tous ces gens sont arrivés en Israël, ont des revanches à prendre. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a...
D'Algérie aussi.
Oui, 200 000 séfarades du Maroc, juifs du Maroc, oui. Qui se sont installés, hein, et qui se sont installés notamment autour d'Haïfa. Et on voit même, comment dire, physiquement, ce changement. Je me souviens que je vous parlais de c'était en janvier 68, et donc j'avais demandé à pouvoir passer quelques jours dans différents kibboutzim. Hein, alors bon, c'était à l'époque, c'était une vie totalement quasiment collectiviste. Hein. Oui. Par exemple, alors, les gens travaillaient dans les champs, etc.
C'était des colcos,
voilà.
Oui.
Voilà. Et le soir, tout le monde était autour d'immenses tablés. Les enfants étaient dans des salles et mangeaient de leur côté, d'immenses tablés. Et on riait. Et après, tout le monde se levait, chantait la tikva, l'hymne national. Puis on faisait des rondes et tout ça. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que quand je regardais tous les gens qui étaient autour de la tablée, dans tous les kibboutzim, j'étais le seul mec qui avait une tête de juif. C'était tous des blonds, des femmes blondes, des yeux bleus, des yeux verts. C'était des têtes de Russes, des têtes de Polonais, des têtes d'Allemands. Il n'y avait pas de gens qui avaient ce que nous appelons, enfin, mais bon, je le dis d'autant plus que bien souvent, on m'a demandé quand j'étais plus jeune, avec des cheveux très bruns, si j'étais juif. Donc je le dis sans aucun... Mais c'était frappant. Hein. Et à l'époque, alors je regardais récemment, il y a une substitution de population. Dans les premiers temps, les nationalistes religieux, ce qu'on appelle les nationalistes, ils représentaient au moment de la guerre des six jours, 2,5% de la population. 2,5%. Aujourd'hui, ils sont 12,5%. Dans 10 ans, ils vont être 25%. Voilà. Et il ne faut pas oublier que le système électoral en Israël, c'est la proportionnelle sans seuil. Sans seuil. C'est-à-dire que si vous faites 1% des voix, vous avez des élus. Ce qui veut dire que depuis des années, n'est-ce pas, cette petite minorité a commencé à jouer un rôle central parce que dans la dispersion électorale qui est celle de la vie politique israélienne, on avait besoin d'eux pour les coalitions. Alors, dans un premier temps, on a d'abord fait appel aux religieux proprement dit, aux chasses, hein, le fameux parti chasse. Puis ensuite, la majorité s'est étendue de plus en plus vers ces nationalistes religieux qui maintenant sont en train de, il faut bien dire, de s'implanter, mais de façon absolument considérable en Cisjordanie. Mmh. Avec d'ailleurs l'appui, beaucoup de gens qui arrivent d'Occident aujourd'hui s'installent en Cisjordanie, dans ces communautés religieuses. J'ai un autre souvenir à ce propos qui vous dit bien, qui est tellement surprenant. C'était en 1989, je m'en souviens, parce que c'était au moment où moi j'étais en Israël, on fêtait le 200e anniversaire de la Révolution française. Hein. Donc c'était en 89, et nous avions été invités, quelques journalistes de la grande presse régionale, pour une interview du premier ministre de l'époque, qui était Itzhak Shamir.
Oui.
Voilà. Qui était un type tout à fait impressionnant. Il était tout petit, quasiment à la limite du nanisme. À la limite du nanisme. Et ce type était un personnage redoutable parce que juste avant l'indépendance, lorsque plusieurs mouvements juifs terroristes s'en prenaient aux autorités britanniques, il avait été un terroriste connu sous le nom de... Les Britanniques l'appelaient « the silent killer ». Parce que le tueur silencieux, parce que comme il était petit, etc., il se déguisait de façon claire, et il s'approchait des officiers britanniques et il les poignardait. Voilà. Et ce type-là, donc, c'était le premier ministre de l'époque. Mais là, je m'égare un peu. C'est pas ça que je voulais vous raconter. C'est que, avec mes confrères, nous avions donc demandé à visiter l'un des plus exposés et l'un des plus extrémistes des colonies, des implantations juives en Cisjordanie. Et donc, on nous avait donné l'autorisation d'y passer une journée et une nuit. Et j'arrive avec mes confrères dans, disons, ce village. Hein, ça n'a plus rien à voir avec un kibboutzim. Hein, là, ils sont dans des maisons particulières, etc. Et on voit arriver un bonhomme sur son tracteur avec pistolet mitrailleur sur la poitrine et vient à notre rencontre. Hein. C'est vous, les journalistes. Qu'est-ce que je suis content de vous voir. Mais je suis français, j'ai fait mon aliya il y a plus de 3 ou 4 ans. Qu'est-ce que je suis content de moi. Moi aussi, j'ai été journaliste. Alors il dit, ah bon. Et pour quel journal vous travaillez. J'étais au service politique de l'humanité. C'est vous dire combien le nationalisme peut créer des conversions absolument extraordinaires. Mais ça dit bien ce qu'est en train de devenir, ce qu'est devenu Israël, qui est aujourd'hui une nation, je le dis sans hostilité, je constate une situation. C'est un pays expansionniste. Voilà, et avec d'autant plus...
Nationaliste,
expansionniste, et avec une population, la population extrémiste ou nationaliste, est celle qui se développe en plus le plus vite, beaucoup plus que les autres. Parce que les Ashkenazes, les gens qui autrefois votaient pour le Parti travailliste, qui a quasiment aujourd'hui disparu... Hein,
ce sont des bourgeois.
Voilà, ils se sont embourgeoisés, et ils ont le même taux démographique, la même natalité qu'ici, en Occident, alors que toutes les familles de juifs nationalistes, c'est 7, 8 enfants, quelquefois 12 enfants. Donc ils ne cessent de prendre du poids, du poids dans cette société.
Alors donc on a un déséquilibre incroyable là-bas au Moyen-Orient, et tout ça est inextinguible.
Absolument,
Sauf évidemment, ce que voudrait Israël, évidemment, c'est la chute du régime iranien.
Bien sûr.
Pour avoir la paix.
Bien sûr. Et en plus, bien
la
sûr.
La fin du risque nucléaire.
Tout à fait. Et on peut imaginer à ce moment-là une espèce de partage d'influence entre l'Arabie Saoudite et Israël.
C'est ça.
Il est évident que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, elle est tenue pour des raisons religieuses, notamment. Mais il est évident que Ben Salman, qui est un prince tout à fait extraordinaire, enfin remarquable, qui est en train de moderniser son pays à marche.
Et qui tue autour de lui.
Oui, il faut se souvenir du fameux opposant qui avait été islamiste, qui avait été enlevé et découpé en morceaux.
Découpé en morceaux et mis dans une valise.
À l'ambassade d'Ankara, je crois, me souviens. Oui, si je me souviens. Non, c'est un type en même temps impitoyable.
Impitoyable. Voilà. Comme ils sont tous.
Un arabe, pardon pour l'expression. Tous ces dirigeants...
Et alors, les accords d'Abraham, c'était quand même le truc par lequel Israël arrivait à se trouver son espace au milieu des pays arabes.
Absolument.
Des pays musulmans, on va dire.
Voilà. Et je pense qu'il faut penser aux accords d'Abraham...
Parce que c'est Trump, ça.
Il faut penser aux accords d'Abraham pour se demander, quand on se demande pourquoi... Trump est intervenu de cette façon. Parce que ça, c'est son enfant.
C'est son enfant,
non, les accords d'Abraham. Et il y tient absolument. Il ne faut pas oublier.
C'est son gendre.
Voilà.
Son
et d'autant gendre. Que, en dehors même de Trump, pour la diplomatie, pour la diplomatie américaine, cette région du Proche-Orient, c'est quelque chose d'absolument central. Central, puisque c'est le point de passage entre l'Europe... Et puis l'Asie, vous avez des ressources pétrolières qui sont absolument prodigieuses. Les Américains n'en ont pas besoin, c'est pas le problème.
Mais
s'ils le contrôlent, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit de contrôler le pétrole. C'est pourquoi d'ailleurs je ris quand on semble considérer que ce serait une catastrophe pour Trump parce que le droit d'Hormuz est bloqué. Financièrement, c'est quelque chose de prodigieux pour le...
Ça remonte les prix pour lui.
Pour les Américains, puisque eux, ils exportent du pétrole, ils n'en ont pas besoin. Hein. Je crois qu'ils ont, au total, pour des raisons que j'ignore, ils importent 5% de leur pétrole depuis le Proche-Orient. Donc, ils ont absolument besoin de ça, et ça fait monter les prix d'une façon absolument extraordinaire, qui fait qu'à 100 euros, le gaz de schiste... c'est formidable, on fait du bénéfice dessus, ça coûte très cher à extraire à 60 dollars, j'en parle d'euros, en 60 dollars, 65 dollars, c'est pas rentable. Hein, donc il faut arrêter toutes les exploitations de gaz de schiste, qui sont souvent des petites exploitations. Hein. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce ne sont pas des grosses sociétés qui contrôlent le gaz de schiste. C'est des milliers de petits producteurs indépendants. Mais faux, ça devient rentable à 90 dollars. Ouais. Donc là, en ce moment, ça baigne dans l'huile, si j'ose dire.
C'est comme pour la Russie.
Oui, absolument. Et alors la Russie, n'en parlons pas. Lui, Poutine, sur ce plan, doit se frotter les mains. Plus ça dure, mieux ça vaut. Hein. Hein, d'autant qu'on dit qu'il est en train de préparer une grande... Enfin bon, ça fait partie des rumeurs entre journalistes. On dit qu'il est en train de préparer une grande offensive, justement, en Ukraine, dans la mesure où, à un moment ou l'autre, il se dit qu'il va falloir profiter de la situation. Mais je pense qu'il ne veut pas le faire immédiatement, précisément parce que il y a une espèce d'entente tacite avec Trump, et que Poutine ne veut surtout pas d'affrontement avec Trump. Il veut absolument... éviter ce genre de choses, hein. c'est absolument certain.
Et alors l'Union européenne là-dedans
et la France
impuissance. Mais justement, si je peux me permettre de Allez-y. Parler, j'avais préparé là,
oui,
quelques...
bien sûr,
justement de les documents, ce fameux document,
oui, la stratégie,
voilà, publié en décembre. Sur le document sur la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine. Hein. Dont certains des éléments, certains des points, semblent contredire totalement ce qu'on pouvait attendre. Hein, je veux dire par là que, encore une fois, on n'imaginait pas à la lecture de ce document que Trump pouvait intervenir en Iran. Or, c'était oublié justement qu'on a voulu faire de ce document un document d'isolationnisme. Hein. Trump n'est pas du tout isolationniste. Ça n'est pas un isolationniste. Simplement, il ne veut plus intervenir pour des raisons idéologiques. Chaque fois que les États-Unis interviendront désormais, ce sera pas pour occuper des pays, ce sera des opérations ponctuelles susceptibles de renforcer considérablement l'influence et la puissance américaine. C'est tout ce qu'ils cherchent. Hein, voilà. Mais quant à penser que... Alors, évidemment, on pourrait me dire, en pareil cas, oui, mais il prétend qu'il veut ramener les droits de l'homme, la démocratie, c'est du verbiage. Tout le monde en est bien conscient.
Il ne l'a pas fait au Venezuela.
C'est pas le but de Trump. Hein, ouais. Mais il a besoin de couvrir auprès de son opinion. L'opinion américaine est en même temps chauvine, nationaliste, enfin une partie, majorité de l'opinion, disons. Hein, et en même temps idéaliste. Alors on ne peut pas enlever l'héritage américain. Donc il faut bien qu'il couvre des préoccupations, alors pardon de le dire aussi brutalement, mais il faut bien qu'il couvre des préoccupations d'ordre de puissance, des préoccupations stratégiques sous un langage plus ou moins humanitaire. C'est la même chose d'ailleurs pour Netanyahou. Il est bien évident que Netanyahou se fiche comme de sa première chemise que les Iraniens soient demain dans un régime démocrate ou pas. Hein. Ce n'est absolument pas son problème. Mais pour en revenir aux propos d'Hiller il y a quelques instants, il est bien évident que si on veut comprendre ce qui est en train de se passer, il faut se replacer dans les accords d'Abraham.
Ouais,
Sous la première présidence de Trump, ça avait été un pas absolument considérable. Hein, c'est-à-dire que pour la première fois, on pouvait imaginer que certains des pays qui avaient été les plus hostiles à Israël acceptaient désormais de vivre en bonne entente, en coexistence avec l'État juif, tout en continuant peut-être à manipuler un certain verbiage. Parce que
de l'Arabie au Maroc.
Voilà, oui, absolument. C'est obligatoire. Hein. Exactement comme, je pense que peut-être, alors quelquefois je m'interroge, chaque fois que j'entends parler des deux États, Bon, il n'y a jamais eu
deux
États. Ça n'a tellement pas de sens maintenant, aujourd'hui, certainement. Et après, je me dis, bon, peut-être qu'il faut le dire quand même.
Hein. Oui.
C'est diplomatique. C'est. Mais le problème, c'est que je crois que nos dirigeants y croient. Alors qu'il est bien évident que c'est fini. S'il y avait dû y avoir deux États, les Palestiniens ont eu une possibilité extraordinaire sous Ehud Barak. C'est juste avant de partir, c'est le dernier reportage que j'ai pu faire, à Camp David, c'était Clinton. Hein, c'était en janvier, donc il n'avait pas encore... voilà. Et Clinton a réuni Ehud Barak, et puis Yasser Arafat. Ehud Barak a présenté un plan de paix qui dépassait tout ce que les Palestiniens avaient jamais pu espérer. Hein. Autrement dit, les Israéliens se retiraient, l'armée israélienne, de 97% du territoire de la Cisjordanie, restait pour des préoccupations stratégiques, militaires, dans 3%, mais par contre, on étendait un petit peu la Cisjordanie vers le Negev pour compenser ces 3%. On construisait aux frais de la communauté internationale, c'est tellement plus facile. On construisait une autoroute entre Gaza et la Cisjordanie, autoroute qui aurait eu un statut international, un peu comme le corridor de Danzig, enfin on sait ce que ça a donné, mais je pense que là ça avait plus de validité. Le gouvernement palestinien, l'État palestinien pouvait avoir son siège à Jérusalem Est. Je dis bien Jérusalem Est.
Oui.
Concession absolument incroyable, avec le drapeau palestinien à Jérusalem Est, là où est le mur des Lamentations. Hein.
Oui.
Bon, qui aurait sans doute été placé sous statut. Bon, ça c'est autre chose. Bon, et Arafat a refusé parce qu'il y avait un point qui n'était pas dans les propositions de Ehud Barak. Hein, qui a été le dernier premier ministre travailliste, c'était le retour de tous les réfugiés et de leurs familles, de leurs enfants. C'est quelque chose d'aberrant. Hein, ça ferait rentrer aujourd'hui 3 à 4 millions, hein, sinon plus, de population qui arriverait d'un peu partout. Bon, c'est une des revendications essentielles. Et je me souviens qu'après, nous avions formé un petit cercle autour d'Arafat et un confrère d'une des chaînes de télévision, de radio, je ne sais plus, m'a dit, mais pourquoi vous avez refusé c'était des propositions que vous ne retrouverez jamais. Et il a dit, si j'abandonne la revendication du retour des réfugiés, je suis un homme mort.
Mais c'est ça. La population ne suivra pas, oui.
Je suis un homme mort.
La rue arabe ne suivra pas.
C'est tout. Or, c'est absurde. Écoutez, il y a 10 millions d'Allemands qui ont quitté la Poméranie, etc., qui aujourd'hui sont complètement intégrés dans l'Allemagne actuelle. Mais au frais de la communauté internationale, dans tous les pays, dans des pays arabes, ces gens vivent dans des camps. Hein, où ils sont pas malheureux du tout d'ailleurs, hein. et les étudiants, eux, peuvent en sortir pour aller faire des études dans toutes les universités d'Occident, où ils se gauchisent à mort, hein, bien évidemment, hein. Ils rentrent plus jamais,
ça fait des troupes.
Voilà, rebelles palestiniens, mais marxistes
ça,
en plus. Quoi,
ça hein, fait
mais,
des troupes pour mélanger. Oui.
Voilà, hein, et tout ça est entretenu au frais de là, il faut bien le savoir, au frais de la communauté internationale. Je sais plus quel, d'ailleurs, parce que souvent les Américains, c'est assez rigolo, je sais plus quel journaliste américain disait... Si l'ONU et l'organisme qui s'occupe des réfugiés, si ce truc avait existé à l'époque des grandes invasions barbares, on aurait au jour aujourd'hui des camps de réfugiés vandales, burgondes, visigoths. ça fait quand même ça date de 48, hein. Et il est bien évident que en plus. Il faut bien, généralement, dire « Ah oui, mais ces gens ont été chassés ». Non, hein, il faut bien se rappeler que Les 8/10 des gens qui ont quitté sont partis volontairement, ont quitté volontairement leur demeure à la demande des pays arabes belligérants. C'est-à-dire que la première chose qu'ont fait les pays arabes, les 6 pays arabes qui ont tenté d'envahir le tout jeune État d'Israël après la proclamation de son indépendance, ils ont demandé à toute la population arabe de Palestine de quitter le pays, de fuir de toutes les régions détenues par, par le... Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont été chassés aussi, ne soyons pas... Il ne faut pas cacher... Il ne s'agit pas, pour ma part, de cacher la réalité, mais une grande partie de ces exilés ont été, au départ, des exilés volontaires. On entend tellement de choses, de bêtises sur cette question israélienne. Par exemple, il y a tout un tas de gens, y compris dans chez nous, qui expliquent que ce sont les Américains qui ont voulu l'instauration sous le poids du lobby juif, l'instauration de cet État d'Israël. On oublie que les Britanniques et les Américains étaient hostiles à l'instauration de cet État et que cet État, ils n'ont pas bougé quand les pays arabes ont tenté l'invasion. Il faut quand même. Et d'ailleurs, la principale unité combattante, c'est la fameuse Légion arabe commandée par le Britannique Ghulob Pacha, jordanienne. C'est elle qui a le mieux combattu et qui a résisté partout où elle le pouvait aux Israéliens. Si Israël a tenu à cette époque, on oublie de le dire, c'est parce que un flot d'armes et de matériel, de chars, etc., sont arrivés à la demande de l'Union soviétique par le biais de la Turquie, de la Tchécoslovaquie à l'époque. Ce sont des bateaux sous pavillon tchèque qui ont amené tout le matériel, les munitions dont avait besoin, à l'époque c'était la Haganah, dont avait besoin la Haganah, le premier embryon de Tzahal. Et pourquoi les Soviétiques, c'était pas pour des raisons idéologiques, c'est qu'ils voyaient dans la création de l'État d'Israël un formidable moyen de créer le bordel dans tout le Proche-Orient. Ils ont réussi d'ailleurs, parce qu'il est bien évident que sans la défaite de ces pays arabes et sans l'existence d'Israël, il n'y aurait jamais eu Nasser, il n'y aurait jamais eu Qassem, il n'y aurait jamais eu de renversement de la monarchie égyptienne, des monarchies irakiennes et syriennes, bien entendu.
Et afghanes.
Voilà, pardon.
Et afghanes.
Oui, aussi, bien entendu. Bien entendu. Donc. Enfin bref, on vit sous la dictature des idées reçues.
Oui.
Et je crois que il faut simplement être clairvoyant. Ça ne veut pas dire que je ne sais plus quel écrivain disait que c'était un écrivain sud-américain, je crois, réactionnaire, bien sûr. Parce que chez les Sud-Américains, je lis que cela, et qui disait notre honneur à nous, c'est d'être capable de critiquer et de rester fidèle à ce que nous avons critiqué. Voilà, notre devoir, c'est d'être des gens clairvoyants, c'est tout. Nous devons à tout moment tenir compte, je crois, de la vérité.
Je vais vous interrompre une minute parce que passez un bobino.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.
Merci.
Vous souhaitiez, je crois, que je revienne à ce document.
Au document américain, voilà.
Au document, donc, ce document intitulé « La nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine » qui a été publié en décembre, donc il y a quelques mois, en décembre 2025. Alors, on a dit que nombre d'observateurs ont dit que ce document se plaçait directement dans l'héritage de la doctrine Monroe, ce qui, d'une certaine façon, n'est pas faux, mais qui va au-delà et qui modernise cette doctrine l'Amérique aux Américains.
Oui,
ça, c'est le premier point. On a bien vu que ça a commencé au Venezuela. Ça va se poursuivre à Cuba. Ne nous faisons aucune illusion. Le régime cubain, ça va aussi être un événement considérable, mais symbolique. Hein, mais le régime cubain est condamné. Il va tomber. Il va tomber, c'est certain. C'est absolument certain. Et je le dis d'autant plus certain parce que même si la majorité changeait en novembre prochain aux États-Unis, ça sera fait avant.
Oui.
Donc, ça, c'est pas dans 10 ans. C'est imminent. C'est imminent. On sait que le régime cubain va tomber. Ne serait-ce que parce qu'il est évident que, dès à présent, Trump et son entourage ont pris des contacts avec, non pas même l'opposition, mais avec des gens à l'intérieur du régime cubain, comme il l'avait fait à l'intérieur du régime chaviste. Puisque maintenant, on voit bien que la présidente dite par intérim est en train de liquider progressivement tout ce qui a été chaviste et maduriste après quoi. Hein, ce sont c'est bon. Enfin bref, je reviens à mes moutons, si vous voulez bien, à ma nouvelle.
Ils ne mangent plus, ils n'ont plus rien.
Ils n'ont plus rien.
Alors,
voilà, ils n'ont absolument, mais vraiment absolument plus rien. Et on oublie que l'Iran était dans une situation quasiment équivalente. Alors pour revenir un peu à l'Iran, il y a toujours aussi, pardon, après je reviens, mais pardon si je suis un peu confus, mais bon, je suis comme
c'est très intéressant.
Mais ce qu'on oublie, parce qu'on dit, ah ben, c'est pas à nous à changer le régime, etc., c'est que ce régime se présente depuis toujours comme notre ennemi existentiel. C'est pas un régime comme la Corée du Nord où tout ce qu'il demande, c'est que on lui fiche la paix, il peut torturer son peuple tant qu'il veut. C'est pas ça. L'Iran, dès le départ, l'Iran a dit qu'il combattrait jusqu'au bout, à mort, le grand Satan américain et le petit Satan israélien. Et nous sommes bien sûr dans le lot. Hein, parce que, bien sûr, nous sommes des proches du grand Satan américain et qu'à leurs yeux, de toute façon, il emploie, parce que c'est bien de dire le grand Satan américain, mais en fait, tout ce qui est occidental, bien sûr, est satanique, hein, aux yeux de ces gens. Donc, ça n'est pas nous qui avons désigné cet État comme un ennemi, c'est lui qui n'a cessé de se désigner comme notre ennemi et de se conduire comme un ennemi. En nous frappant quelquefois durement, on parle toujours de nos 55 ou 58, je ne sais plus, malheureux soldats du Drakkar. C'était l'Iran, on sait bien, derrière. Hein. C'était déjà les prémices du... Je ne sais pas si le Hezbollah existait déjà, mais en tout cas, c'était déjà des gens qui allaient créer le... Où il existait déjà, je ne sais plus. Ça, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ce sont des proxys de l'Iran qui ont fait l'attentat de Drakkar. L'Iran n'a cessé de se définir comme notre ennemi. En tout cas, je reviens, pardon, hein, donc à cette nouvelle stratégie. Alors, il est écrit ceci, au cœur de notre nouvelle stratégie se place le principe de souveraineté nationale. C'est une priorité absolue. Une priorité absolue est désormais accordée à la sécurité intérieure et à la sécurité des frontières. Et il est précisé, fût-ce au détriment de la liberté du commerce et de la liberté des déplacements. Ça n'est pas rien. Donc on est obligé...
Bon, c'est heureux d'avoir une telle définition. Oui.
Et alors, ce texte dit ensuite... Nous, c'est entre guillemets, hein, je l'ai mis, nous voulons protéger ce pays, son peuple, son territoire, son économie et son mode de vie contre les attaques militaires et les influences étrangères hostiles. Nous voulons un contrôle total sur nos frontières, sur notre système d'immigration. Nous voulons un monde dans lequel les migrations ne sont pas simplement contrôlées, mais dans lequel les pays souverains travaillent ensemble pour mettre fin aux déstabilisateurs de population. Bon, c'est quand même, avouez que c'est un document révolutionnaire. Voilà. Hein. Après, là, on tombe dans ça, c'est l'impérialisme américain, parce que un hégémonisme, disons. Hein. Nous voulons l'armée la plus puissante et la plus avancée technologiquement du monde.
Et c'est vrai.
C'est vrai, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, alors on parle de la Chine, mais le budget cette année, c'est 980 milliards d'euros. Dollars, en dollars, ça fait plus. 980 millions d'euros.
Milliards
d'euros. C'est trois fois le budget, je crois, trois fois le budget de la France.
Oui, hein. C'est ça. Oui,
budget,
oui,
pas le budget
oui.
militaire. Hein.
Oui, oui, oui,
hein.
Oui.
Le budget militaire de la France, c'est 57 milliards. Hein.
Oui, oui.
Là, on est à...
Le budget militaire français, en plus voilà. de ça, est rogné.
Le budget, le deuxième budget le plus important au monde, c'est le budget chinois, qui doit être tourner autour de 300 milliards, approximativement. Hein, oui. Donc, on est à un tiers. Un
oui,
tiers.
Oui.
Le budget de la Russie a considérablement augmenté. Il était à une époque, il y a 10 ans, il était au niveau du budget français quasiment. Hein, c'est incroyable. Et là, maintenant, avec la guerre en Ukraine, la Russie dépense pour son armée 250 milliards qui sont prévus là. Voilà. Hein. Et alors, ensuite, derrière, pour donner... une idée hein, de l'échelle des grandeurs. Qu'est-ce qu'on a derrière je crois bien qu'on a l'Allemagne.
La volonté de l'Allemagne, parce
voilà.
que c'est pas encore...
Oui, dans le budget, je parle du budget.
C'est 100 milliards.
Voilà, 100 milliards. Oui. Hein, mmh. hein, 100 milliards. Et derrière... alors le Japon, j'avoue que je n'ai pas pensé à...
Non, le Japon,
ça fait un bout de temps que je n'ai pas regardé. Alors c'est en train de monter très fort aussi. Mais l'Inde, par exemple, l'Inde doit être à 78 milliards, c'est-à-dire plus que nous. Et l'Arabie saoudite doit être sixième, je crois, avec 76 milliards. C'est-à-dire bien plus que nous.
Mmh.
Hein, ce qui tente à accréditer...
Et Israël, c'est combien?
Alors, là, vous me posez une colle. Je pense pas que ce soit extraordinairement élevé. Enfin, ça doit être. J'en n'en sais rien, franchement. On pourrait regarder là. Hein. J'avoue que je ne sais pas parce que il faut dire aussi que Israël, pour son budget militaire, reçoit une aide considérable des États-Unis.
Oui.
Hein, hein, donc, il faut considérer son budget propre. Et là, je dois avouer que je ne sais pas ce qu'il est, mais. Après, il faut rajouter des livraisons d'armes gratuites, de munitions, il y a vraiment...
Parce que c'était une des questions des auditeurs,
oui,
alors c'est pour ça que
oui.
je pose, qui disait mais comment Israël se fait pour financer la guerre.
Bah, vous savez, c'est quand même un pays extraordinairement moderne, dans presque tous les domaines. Il est à la pointe de la technologie. C'est un pays extrêmement endetté. Donc, je pense que là, par exemple, cette guerre, il la paye en partie par des emprunts. Ça va leur poser un problème considérable. Hein. Mais tant qu'ils ont la couverture des États-Unis,
oui.
tant que les États-Unis le pourront, parce que, attention, quand je dis le plus extraordinaire, c'est que les États-Unis consacrent 1 000 milliards, l'équivalent de 1 000 milliards d'euros. À leur défense, mais dans le même temps, ils ont 37 000 milliards de déficit. Ça va pas pouvoir. Un jour ou l'autre, bien sûr, on va vers un cataclysme financier. Quand il arrivera, je n'en sais rien. Mais il est bien évident que. Mais est-ce qu'un régime de type démocratique, ça va être l'un des grands problèmes des prochaines années. Est-ce que des pays, est-ce que des régimes démocratiques peuvent. Imposer à leur population des sacrifices tels que ceux que nous allons subir dans les 10 ou 15 années qui viennent du fait que depuis 40 ans pour nous, depuis plus de 40 ans nous vivons à crédit, mais les États-Unis c'est pareil. Hein. Or les États-Unis ne survivent que grâce au système du pétrodollar.
Oui, et grâce au système du dollar lui-même.
Au système du dollar lui-même,
oui.
qui fait que... le dollar s'est substitué à l'or.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mais on sait bien que les Chinois préparent un coup de Trafalgar formidable. Ils sont en train d'acheter tout l'or qu'on peut trouver sur le marché. Hein, le but étant un jour de lier le yuan à l'or, comme l'était jusqu'à Nixon, au dollar.
Et que le yuan devienne la monnaie internationale.
Voilà. Et que le yuan devienne, en tout cas, que toute une partie, je ne sais pas s'il peut le devenir, mais en tout cas que toute une partie du commerce, de la finance internationale, échappe à l'emprise.
Et les Américains ont eu très peur quand l'Arabie Saoudite a traité et a conçu... a concédé le fait de faire des règlements.
Tout à fait. Ils sont maintenant, ils font partie de. Oui. de...
Des BRICS.
Des BRICS, voilà, l'Arabie Saoudite. Hein. C'est un phénomène tout à fait nouveau. C'est en cela que le prince Salman est un homme extrêmement adroit, qui joue, qui mène une partie diplomatique telle qu'un pays souverain et indépendant doit le mener. Pardon, il y avait une question peut-être
de... Oui, alors il y a un message que je veux vous lire.
Oui.
Parce que, voilà. Bonsoir, il faut féliciter votre invité.
C'est gentil.
Car il doit être la seule personne du monde à avoir compris où Trump veut en venir. Par contre, on sait d'où il vient, ce cher Trump, dont un certain Epstein disait à Steve Bannon qu'il avait rompu lui-même toute relation car il ne voulait pas se compromettre. Jeffrey Epstein disait que le père de Trump faisait ses affaires à coups de cadeaux compromettants et que le fils truquait les comptes de son golf de Californie au détriment de ses associés. Les innocentes photos avec des gamines seraient donc un rideau de fumée pour cacher les vilaines financières bien plus sérieuses. Bien entendu, on sait que Jeffrey Epstein était un agent du KGB, le même KGB pas mort ayant déclenché l'affaire Epstein pour déstabiliser Trump en faisant publier des documents par le département OF Justice et le FBI. Donc rien à voir avec les petits soucis judiciaires de Bibi qui a disparu depuis le 8 mars et qui n'apparaît plus que dans des vidéos manifestement générées par l'intelligence artificielle. Bref. Nous faire croire que l'Occident est autre chose qu'une colonisation américaine, faut trouver des pélicans pour avaler cela.
Oui, mais c'est, bien sûr, c'est un argument classique. Bon, je voudrais répondre peut-être point par point. D'abord, moi, je ne crois absolument rien ne prouve que Epstein soit un agent du KGB. Alors ça me semble une avancée.
On m'a beaucoup dit que c'était un agent du Mossad.
Je pense que ça, c'est vrai.
Oui, en pensant, oui.
Mais du Mossad, certainement. Oui. Mais du KGB, il n'y a absolument aucune preuve pour ça. De même qu'on a dit que Trump était également, pas un agent du KGB, mais un homme au service de la Russie. Hein, or, le fameux rapport Mueller, le procureur qui vient de mourir, a montré que c'était de pure légende. Hein, quant à l'idée, je me trompe peut-être suis-je aveugle, hein, mais l'idée d'un monde des affaires absolument tout puissant qui dirige le monde entier avec une main gantée, j'avoue que j'ai toujours été très très sceptique. Bien sûr, il y a des gens formidablement puissants sur le plan financier.
Et formidablement corrompus.
Voilà, et formidablement, mais ils se combattent. Il n'y a pas un cénacle où ces gens, sous une image de Satan,
se réunissent et décident.
Se réunissent. On a dit, c'est pareil. Alors les marxistes ont voulu, par exemple, nous expliquer que la Première Guerre mondiale, comme la Deuxième, c'était uniquement une affaire de financiers, de légendes. Or, tout dément ça. Je crois que c'est Jules Monroe qui avait, vous savez, le sociologue, hein, Jules Monroe, dans sa Sociologie de la Révolution, un énorme volume, avait prouvé que tout ça était absolument délirant, pour la simple raison, par exemple, que quand on regarde les intérêts financiers, tous les gens qui avaient les mêmes intérêts financiers se sont combattus, et les gens qui auraient dû s'entendre. Et les gens qui auraient dû se combattre, au contraire, se sont entendus. Hein? Par exemple, en 1914, les deux puissances financières qui se combattent, on peut dire à mort, l'une cherchant à supplanter l'autre, c'est la Grande-Bretagne et c'est les États-Unis. Or, ils vont se retrouver dans le même camp. Hein? Et de même, normalement, l'Allemagne et la Grande-Bretagne auraient dû se retrouver dans le même camp en 1914, puisqu'en fait, ils n'étaient absolument pas concurrents commerciaux. L'Angleterre faisait 80% de son commerce hors d'Europe, alors que 80% des exportations allemandes se faisaient en Europe. Donc il n'y avait absolument pas de conflit. Il est bien évident que les conflits étaient d'une autre nature, ethnique et essentiellement politique. Alors là, mais je vous dis, peut-être suis-je un grand naïf, hein, mais il me semble qu'il y a des intérêts tellement divergents. Il y a un Soros, il y a... Alors, c'est pas... Je veux dire, de la même façon, on va dire... Bolloré, voilà. Alors, Bolloré, c'est un tout petit milliardaire.
Oui.
Hein, et à gauche, on adore dire que Bolloré domine C'est un gamin, Bolloré. Hein, je crois que sa fortune, ça doit être 8 à 10 milliards d'euros. Mmh. C'est absolument rien.
Hein, par rapport à Arnaud, c'est rien
oui,
du tout.
Par rapport à Arnaud, c'est rien. Oui. Par rapport à même à Saadé, Rodolphe Saadé, oui, oui. qui est un proche de Macron, qui est en train de racheter tout un tas de choses. Oui. Sa fortune doit être 6 fois supérieure à celle de Bolloré. Hein, donc vous avez des puissances financières, effectivement, qui souvent, effectivement, se mêlent de politique pour faire prévaloir leurs intérêts personnels. Ça, on le sait bien. Hein, et on sait bien que c'est d'autant plus facile qu'on est dans des régimes de type démocratique. Hein, tous les partis ont besoin d'argent, ça on le sait bien, et les gens sont corruptibles. Donc on sait bien que c'est une des raisons pour lesquelles nous regardons la démocratie pour être pudique sous un œil critique.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, mais le moins qu'on puisse dire. Mais oui, alors votre auditeur là, a raison sur certains points, mais à mon avis, il pousse son raisonnement trop loin. De même qu'il est bien évident, alors ça, j'en suis certain, il est certain que l'entourage de Trump s'est fait récemment beaucoup d'argent.
Oui.
Avec
l'affaire du pétrole.
Avec cette affaire du pétrole. Mmh. Parce que il y avait quelques personnes au moment où nous nous posions la question.
Oui, et puis qui sont à l'affût et qui font danser le métier.
Oui, voilà. Et au moment où nous nous posions la question, est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va pas y aller, est-ce que vraiment, etc., eux, ils savaient déjà qu'il allait y aller. Mmh. Parce que Trump n'a pas pris. Le fait que, sur un simple coup de fil de Netanyahou, disant, ça y est, ils sont tous réunis, y compris l'imam Khamenei, au même endroit, c'est le moment de frapper, mais on a une heure devant nous. Trump dit oui. Donc, mais Trump, si c'est que Trump a pris la décision d'intervenir depuis au moins 15 jours,
mais bien sûr,
il sait qu'il va y aller déjà. Hein, et il est bien évident que là, il y a des gens qui se sont fait, encore une fois, de son entourage, vraisemblablement, beaucoup d'argent. Mais quant à, par exemple, il me semble évident que ce qu'on appelle le lobby juif, enfin par l'intermédiaire de la fameuse association EPAC, AIPAC, a été beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, depuis 1974, les financiers arabes ont pris une importance absolument considérable dans la vie économique et politique internationale. Hein. Et dans des pays comme le nôtre, il est bien évident que le CRIF aujourd'hui est complètement écarté par le poids des organisations liées à l'islam, qui représentent une population peut-être moins riche pour certains,
Macron redoute la...
Voilà, il est bien évident que c'est ça, c'est eux que Macron redoute plus aujourd'hui, qu'on va encore au CRIF, les dirigeants vont encore au CRIF,
c'est une vieille habitude, mais il est évident
que la communauté juive française, enfin je parle d'eux, hein, a perdu une partie importante de ce qui était son influence.
Une grande partie des décisions de Macron sont tenues en fait en fonction des réactions qu'il attend
tout
du monde.
Tout à fait, par la crainte d'un désordre absolument
dont il est menacé.
Voilà,
d'autant
absolument,
plus qu'il s'est engagé de ce côté-là, certainement dès avant son élection, dès 2016, quand il est allé en Algérie, il a évidemment traité...
C'est certain, et il y a des liens en permanence,
bien sûr.
Parce qu'on pourrait prendre toutes les mesures pour mettre à genoux le gouvernement algérien, si on le voulait. Mais les populations algériennes sont l'équivalent des fusées iraniennes qui tombent sur... Ils sont en mesure de ficher un chaos dans ce pays absolument terrifiant. Il faut le savoir, il faut le dire.
C'est ce qui va se passer, là, ce qui s'est passé après les... Après les élections municipales, ça fait des armées au service de Mélenchon.
Oui, absolument.
Et Macron le sait très bien. Et Macron avait une sorte d'accord non dit avec Mélenchon.
Bien sûr.
Et ça, faut le comprendre. Ça a toujours existé depuis le début.
Bien sûr. Quand vous pensez...
Le Girondin traite avec le Montagnard jusqu'au jour où le Montagnard le tue.
Oui. Quand vous pensez à Saint-Denis, quand même.
Bien sûr.
Saint-Denis, c'est la deuxième ville d'Île-de-France, derrière Paris. Hein. Mmh. C'est la ville la plus peuplée. 150 000 habitants. Mmh. 100 000 étrangers.
Oui, oui.
Il y a 50 000 nationaux, enfin nationaux. Enfin,
oui, on ne sait même pas, oui.
Voilà,
oui,
mais on suppose.
On suppose.
Voilà.
Oui.
Et comme moins de la moitié a voté, ça fait que ce type-là, dont j'ai oublié le nom, qui a été élu, il a été élu avec 13 000 voix dans une ville de 150 000 habitants. Mmh. Mais il n'empêche qu'il la tient.
Et bien sûr,
oui, il la tient.
Et demain, ils la tiendront deux fois plus, puis trois fois plus, puis quatre fois plus, c'est certain. Si vous permettez, je
vais...
Voilà. Donc, le autre point de ce fameux document, il est dit... Alors, nous voulons restaurer et redynamiser la santé spirituelle et culturelle des États-Unis. Nous voulons une Amérique qui choisit ses gloires passées et ses héros et qui aspire, alors ça fait partie du vocabulaire, et qui aspire à un nouvel âge d'or.
Oui,
ça,
c'est typiquement... mais on espérerait aussi qu'en France...
Absolument, quelqu'un nous dise des choses de genre.
Bien sûr, c'est ce qu'on attendrait. C'est ce que devrait penser un Macron, mais Macron pense exactement le contraire.
Alors, pour ce qui relève des conséquences de cette nouvelle doctrine sur la politique étrangère, justement, alors j'ai noté, premièrement, c'est énuméré aussi, la compétition stratégique avec la Chine... est évoqué à de nombreuses reprises. Mais par contre, à aucun moment, la Russie n'est mentionnée comme une menace.
C'est incroyable, oui.
Incroyable, à aucun moment. Alors qu'on est en guerre, alors que nous, Européens, sommes en guerre jusqu'à la mort.
Oui. Pour nous, l'ennemi principal, c'est Poutine.
Au nom de principe, voilà. Mais alors que pas un moment dans ce document. Et je pense que ça, bien sûr...
Ils le font exprès.
Oui, bien sûr. Non, mais... je crois qu'on ne peut rien comprendre à la politique des dirigeants américains si on ne comprend pas qu'ils nous méprisent d'une façon abyssale.
Il nous l'a dit l'année dernière à Munich.
Oui. Absolument.
Et il avait raison en plus. Il avait totalement raison.
L'importance du lien entre les USA et l'Europe est reconnue. De même que l'importance des liens avec l'OTAN, mais il est souligné que, c'est entre guillemets, ces liens peuvent être remis en question.
Voilà.
Oui. Si la contradiction s'aggravait entre la civilisation européenne et les valeurs de la société américaine. Ça veut dire que vous êtes des décadents, vous changez, la seule chose que vous avez à faire, si vous ne changez pas, vous allez nous suivre. Voilà, allez être nos domestiques. C'est ça, ça veut dire. Mais à aucun moment, aucune administration américaine nous a méprisés comme celle-là. Et on ne peut pas dire que c'est parce que, alors comment dire, que c'est une civilisation protestante, etc. Il ne faut quand même pas oublier que J.D. Vance est catholique.
Oui,
que
Rubio est catholique.
Et que aujourd'hui une partie importante de l'électorat est catholique hispanique. Dans les 30 ans qui viennent, je pense, les États-Unis vont devenir la première puissance catholique du monde. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Et peut-être tant mieux.
Oui, peut-être tant mieux. Parce que,
par exemple, son épiscopat se tient mieux que notre épiscopat européen.
Si j'ose employer
Il y a au moins là-bas des évêques qui sont des évêques.
Absolument. C'est un catholicisme viril.
Oui.
Voilà. Alors, et il est réaffirmé à la fin, l'objectif central de la politique étrangère américaine doit être la protection des intérêts nationaux fondamentaux. Toute intervention extérieure ne peut être menée que dans ce cadre.
Bien sûr.
Voilà. Mmh. Alors, la question qu'on peut donc se poser, c'est...
très capétien comme
doctrine. Oui. Alors, ça veut dire... Mais dans la mesure où, avec cette dernière phrase, on doit s'interroger, ça veut dire donc que, pour Trump, les intérêts fondamentaux des USA sont menacés par l'Iran. Sinon, il n'interviendrait pas.
C'est ce qu'il a dit dans sa conférence
de presse. Absolument. Alors bon, il parle de l'arme nucléaire. Oui. Ça me laisse un peu sceptique. C'est à longue échéance. C'est à longue échéance. Mais je crois que Trump, comme tous ses prédécesseurs d'ailleurs, mais avec pas, les autres pas avec la même acuité, et persuadé, encore une fois, que le Moyen-Orient, comme disent les anglo-saxons, et pas le Proche-Orient, parce que bon, oui. Quand tu dis aux Français aujourd'hui le Proche-Orient, ils entendent le Liban, oui. Etc. Donc je vais dire le Moyen-Orient, bon, il est persuadé que c'est un élément central, que la domination américaine sur le Moyen-Orient est un élément central, fondamental de la puissance américaine. Hein, et on a bien vu qu'il avait commencé par les accords d'Abraham, parce qu'évidemment, l'un des problèmes effrayants de la diplomatie, il faut le dire, de toute diplomatie occidentale, c'est le chaos qu'a créé ce qu'avait distingué Bainville. Disons-le là, franchement, l'existence, la création d'un État israélien au milieu d'un monde qui est arabe et malheureusement...
Et à qui on a donné une puissance financière considérable avec le pétrole.
Et entièrement musulman. Et de plus, malheureusement, les Israéliens, à mon avis, ont fait une erreur fondamentale ces 50 dernières années, c'est qu'ils n'ont pas suivi l'objectif que leur avait donné le fondateur idéologique du Herout, du Likoud, du Likoud, etc. C'est Jabotinsky.
Et Jabotinsky,
voilà.
Oui.
Zaev Jabotinsky, hein, qui était le
grand dur.
Voilà, le gros dur. Hein,
le gros dur.
Voilà. Mais Jabotinsky disait... Il y a dès le départ deux stratégies qui s'opposaient. La stratégie qui a été adoptée par Israël pendant des décennies, ça a été de dire il faut que nous devenions un État moyen-oriental comme les autres. Un État moyen-oriental comme les autres. D'une certaine façon, un État arabe comme les autres, quoi. Mais sauf qu'on sera juif, mais nous devons nous intégrer et nous intégrer progressivement en ne cessant de faire des accords de paix, etc.
Les
travaillistes, oui. Tout à fait. Oui. Et à l'inverse, Jabotinsky disait, ça ne marchera jamais. Nous devons être les protecteurs. Israël ne peut fonder sa légitimité, étant donné l'effacement progressif de l'Occident, qu'en devenant les protecteurs de toutes les minorités ethniques et religieuses du Moyen-Orient.
Et en tuant.
Pardon ?
Et en tuant.
Oui.
Il précisait, et en tuant.
Oui, oui,
et lui-même, il tuait.
Voilà. Israël n'a pas su renoncer à être le protecteur des chrétiens du Liban.
Oui.
Ils l'ont été pendant un certain moment, mais ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas su défendre les Coptes d'Égypte. Ils n'ont pas su... Enfin, toutes les communautés...
Les minorités arabes.
Oui, et y compris certaines minorités, ou les à la limite même kurdes et autres.
Oui.
Excusez-moi.
Non, c'est simplement qu'on nous indique le. Il vous reste 9 minutes.
Ah, d'accord. Pardon.
9 minutes, c'est ça.
Pardon.
C'est-à-dire en réalité 8.
Oui. Oui. Parce que moi, je regardais là, et en fait, là, c'est trompeur.
Voilà, en tout cas, ce que je pense, c'est que rien n'est pire que de vouloir fonder des stratégies diplomatiques à longue échéance.
Chance, oui.
Le royaume de la diplomatie, c'est échéance quelques années. Au-delà, on fait des sottises, on se trompe presque toujours. Hein, on a, par exemple, je vais donner un seul exemple, je vous donnais tout à l'heure l'exemple des Américains qui ont soutenu les islamistes en Afghanistan. Est-ce qu'il fallait ne pas le faire? Je ne sais pas. Il s'avère qu'à longue échéance, c'était une stupidité. Mais à l'époque, le danger, c'était bien l'Union soviétique, qui venait de remporter tout un tas de succès, il ne faut pas oublier, qui dominait l'Éthiopie, l'Angola, le Mozambique, qui avait remporté des succès considérables.
Qui mettait la main sur l'Afrique.
Voilà, oui. qui mettait la main sur l'Afrique. Donc, voilà. Alors, de même, je crois dans le petit livre que vous m'aviez demandé d'écrire, je disais, par exemple, quand l'Angleterre soutient le Japon en 1905 contre la Russie, parce que la Russie, c'est son ennemi. Mais 30 ans plus tard, les Japonais sont à Singapour, Hong Kong, et dans toute une, en Malaisie, dans toute une partie de l'Asie. Le haut état-major allemand supplie le Kaiser de bien vouloir laisser passer Lénine dans son train plombé en disant il va foutre le bordel en Russie Et nous,
ça nous libérera notre
voilà,
front.
Nous, on va pouvoir rediriger vers l'ouest des armées. Oui. C'est bien ce qui se passe.
Exactement.
Hein,
oui,
hein, grâce à ça. Mais le problème, c'est que 30 ans plus tard, oui. les Russes sont à Berlin.
Oui, bien sûr.
Donc on peut pas. Je pense qu'il faut voir tout ça. Prendre des initiatives diplomatiques que à court terme, même si on sait que une diplomatie, par contre, ne produit ses effets qu'à très longue échéance. Hein. Bainville disait rien de grand ne se fait vite.
Oui. Hein.
D'où d'ailleurs l'échec de toute la diplomatie gaullienne qui a voulu ramasser une politique maurassienne, mais dans les quelques années de pouvoir et de vie qui lui restait.
Oui, et malheureusement, en perdant plus de ça, toutes ses cartes.
Voilà,
C'est De Gaulle qui a perdu l'Afrique, en fait.
Absolument, qui a perdu l'Afrique, qui a abandonné l'Algérie.
Qui a abandonné l'Algérie. Si on faisait de l'Uchronie comme pour le chat...
Oui.
Si on avait trouvé
une solution,
ça serait, tout aurait été différent.
Oui. Bainville encore résumait ça en disant, pour les historiens, il est plus facile de prévoir le passé que l'avenir.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc, pour ce qui est de l'Iran, on ne peut marcher que pas à pas. Il ne faut pas développer des stratégies. On verra. Mais il est évident que, pour ma part, j'ai aucune influence sur le cours des choses, mais d'une part, il me paraît que l'initiative, moi, de Trump est justifiée. Il me semble qu'elle peut réussir, qu'aujourd'hui, on annonce l'échec. Mais bien, d'un jour à l'autre, vous avez tous les bavasseurs là, de chaînes de télévision. Un jour, ils vous expliquent que ça y est, le régime est foutu. Le lendemain, que c'est eux qui vont sortir grand vainqueur de cette affaire. Tout ça n'a pas de sens. Mais d'autre part, peut-être qu'il est évident que si Trump se retirait maintenant, ça ne serait pas une bonne chose pour lui politiquement. Son image serait entamée. Mais je pense que dès à présent, l'Iran a été affaibli d'une manière absolument décisive. Décisive, considérable. Et ça va avoir des répercussions absolument considérables sur le cours des choses. Alors maintenant, on nous dit, ah oui, mais les Américains vont perdre, les Républicains vont perdre la Chambre, etc. C'est pas joué. Hein. Si, vous savez, à la fin mai ou début juin, l'affaire est réglée, il restera 8 mois encore. Hein, il restera
et
8 mois.
Il aura sa majorité.
Voilà. Et en plus, pour vous dire le fond de ma pensée, si Trump réussit à introduire les deux réformes fondamentales qu'il veut introduire sur les procédures de vote, il va gagner. Parce que depuis des décennies, les démocrates ne gagnent qu'en trichant. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est hallucinant ce qui se passe aux États-Unis. Hein. N'importe qui se présente et peut voter sans aucun papier. Même le dire, c'est assez hallucinant. Hein. Or, l'une des mesures que veut faire adopter Trump dans les mois qui viennent, c'est que tout électeur devra présenter une carte électorale avec sa photo. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tous les votes par correspondance devront être comptabilisés le jour même. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a jusqu'à 6 jours?
Oui, de différence. Oui.
Voilà, ce qui fait que dans certains États, on l'a bien vu au Nevada, le soir, les Républicains sont en tête et largement. Donc les démocrates disent ah bon, combien il nous faut de votes par correspondance alors pour gagner ? Et on arrive avec des paquets entiers, mais faut dire, par camion, on apporte des votes par correspondance qu'on a ramassés un peu partout, c'est-à-dire dans toutes les hôpitaux, les EHPAD, les maisons de retraite, etc. Et puis en fin de compte, on dit ah ben, on a gagné par 100 voix. C'est sidérant. Les démocrates présentent ça comme une atteinte aux droits de l'homme, pratiquement, hein, d'avoir à présenter pas seulement sa photo, sa carte d'identité. Vous pouvez voter avec alors n'importe quel papier, quoi. Hein, donc, si vous êtes un bureau dans un comté démocrate, si vous présentez votre carte d'étranger, enfin, je ne sais pas, mais ça marche.
Alors, Marcel, est-ce que vous pouvez nous dire, puisqu'il ne reste plus que 2 minutes, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la façon dont Macron mène sa politique étrangère? Un mot pour nos amis, pour nos auditeurs.
Un mot, confusion.
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 Et le fait d'avoir installé tout ce qui nous reste comme bâtiment de base maritime.
Un adjectif pitoyable.
Oui, pitoyable.
Parce que bon, il n'y a pas de ligne. Hein.
Oui.
Toute la diplomatie Macron, c'est faire semblant de faire. C'est une diplomatie de mots.
Oui.
De mots, mais qui n'est suivie par rien. Par rien. C'est ça. Et je crois que ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'il n'y a pas seulement cette confusion, cette anarchie diplomatique. C'est aussi que les intérêts français sont bradés systématiquement. Systématiquement à l'avantage de l'Allemagne.
Oui.
À l'Allemagne. L'Union européenne est en train de devenir un empire allemand. Il faut le dire.
Bien sûr.
Et si, je crois que si Trump...
Nous le disons dans Politique Magazine et dans la revue universelle.
Bien sûr. Et je crois que si Macron accepte cette chose, c'est parce que je pense que son rêve, c'est de devenir demain président de la Commission européenne.
De la Commission de défense.
Oui. C'est bien pourquoi il accepte, parce que von der Leyen est totalement dehors de son rôle.
Bien sûr.
Constitutionnellement, elle n'a aucun pouvoir sur le plan commercial. Commercial, oui. Sur le plan de défense et sur le plan de la politique étrangère. Elle ne doit même pas s'en mêler. Elle n'a aucun droit de s'en mêler. Or, on la laisse faire. On la laisse faire pourquoi ? Parce que les Allemands la laissent faire, puisqu'elle est allemande et qu'elle est au service des intérêts allemands. Et Macron lui laisse faire, parce qu'il se dit, plus elle aura plus voir, plus moi demain, si je lui succède, il va avoir aussi
le
pouvoir.
Elle m'ouvre la voie.
Voilà, c'est tout.
Voilà, et merci.
Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal de Jacques Trémollet de Villers, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 26 mars 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.